Bonsoir, élection 2011 en RDC. Au lendemain du jour officiel du vote, les scrutins se poursuivent dans certains bureaux de vote à travers le pays, comme annoncé hier par la CENI. Dans le même temps, les opérations de dépouillement ont commencé et sont même achevées dans d'autres. Ce soir, Dialogue entre Congolais fait le point sur le dépouillement des bulletins de vote et le taux de participation. Nous recevons comme invité dans cette émission professeur Jacques Joly, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Professeur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
Professeur Ibikian Bokolo, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris en France. Il a publié un livre collectif intitulé « Élections démocratiques au Congo, enjeux et perspectives ». Professeur Ibikian, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Tony Toulabor, directeur de recherche au Centre de recherche dénommé « Les Afriques dans le monde » à Bordeaux en France. Il travaille sur les problèmes électoraux et prépare un ouvrage sur les fraudes électorales en Afrique. Professeur Tony Toulabor, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déjà, comme d'habitude, très nombreux à nous envoyer vos réactions. Maître Joseph Dieudonné Olinga de Massina Kinshasa se constate que le dépouillement s'est bien passé à condition que cela ne soit pas associé au bureau fictif. Charles de Kinshasa encore, quelles sont les leçons tirées par la CENI après la dénonciation de plusieurs irrégularités? Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 68 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiotapis.net.
Au lendemain des élections présidentielles et législatives, le dépouillement de bulletins de vote a déjà pris fin dans la plupart des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire de la RDC. Les résultats provisoires sont déjà affichés dans certains bureaux, tant pour le scrutin présidentiel que pour les législatives. Cependant, certains électeurs n'ont toujours pas voté. Par ailleurs, quelques incidents sont signalés à certains bureaux de vote lors du dépouillement. Les situations sont bien différentes selon les régions. Onizi Mukandila pour les détails.
D'après la CENI, près de 98% des bureaux de vote ont fonctionné lors de ces élections à l'RDC. Au Kasaï oriental, les opérations de vote ont pris fin, mais les électeurs de Lomela n'ont pas tous voté. En Bouzima, le dépouillement s'est effectué sous tension. Les policiers ont emporté les bulletins de vote à l'issue du scrutin au centre Kankolo-Mwabondo, après avoir dispersé la population par des coups de feu. Nos sources parlent d'un mort. À Lubumbashi, précisément dans les communes de la Roissy et de Tatouba, où on n'a pas voté hier, les électeurs ont été renvoyés par les responsables locaux de la CENI. N'était pas informé de la prolongation du vote. Si on a voté à Talé dans le Sud Kivu, ce n'est pas le cas dans certaines localités de Fizi et de Mwenga. Le matériel de vote n'y a pas été déployé. Même situation à Bongandanga dans l'Équateur, en Ituri dans la province orientale, ainsi qu'à Panzu et Tembo dans la province du Bandundu, où les urnes et bulletins de vote étaient introuvables. Au collège Saint-Robert de Barumbu à Kinshasa, certains électeurs n'ont pas voté. Ceux qui s'y sont acquittés de leur devoir civique ont vu leur bulletin de vote emporté par la police pour une destination inconnue. C'était à la suite d'une altercation entre les témoins et les agents de la CENI qui ne voulaient pas le voir assister au dépouillement. À Massina-Tiporco, on n'a toujours pas voté à Saint-Boniface. Les électeurs n'ont vu aucun matériel électoral leur destiné.
Merci Onésime Mukandila. Professeur Jacques Joly, je rappelle que vous êtes vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Commençons par la journée d'hier. Après avoir fait le monitoring de cette journée, quel bilan la CENI dresse-t-elle du déroulement des scrutins d'hier?
Merci beaucoup. Je crois que nous avons dit le matin et nous avons répété à midi avec Radio Capi. Le monitoring d'hier nous a donné le tableau qui nous a été donc décrit, à savoir plus de 99% de bureaux de vote ont fonctionné normalement. Nous avions 63 865 bureaux de vote, 63 381 bureaux de vote ont fonctionné normalement et 485 bureaux de vote, soit 0,76%, ont eu des problèmes. Il s'agit, comme vous l'avez suggéré, dans le Bandundu, où deux territoires, du moins deux cités, la cité de Tembo et de Fans, on n'a pas voté parce que le matériel n'est pas arrivé. Dans le Bas-Congo, on n'avait pas de problème. On peut dire que le taux là-bas de problèmes de vote était de 100%. à l'Équateur, vous venez de dire, nous avons eu des problèmes de déploiement à Bungandanga. Le Bungandanga, c'est le territoire le plus grand après Bafassine, la République démocratique du Congo. Ce territoire est composé essentiellement d'îles. Et pour déployer, il fallait absolument des hélicoptères. Il s'est causé un problème de ravitaillement de carburant à partir de l'Isala. Aujourd'hui, on a voté à Bungandanga. Il y avait quelques problèmes à Bumba dans le territoire de Yali Gimba et Aïssama, mais on a également voté aujourd'hui. Donc là aussi, nous avons atteint le taux de 100%. Au Kasaï occidental, il y a eu des problèmes à Kananga. Il y a eu au moins sur l'ensemble du territoire de la province de Kasaï, 149 bureaux qui ont été saccagés ou violentés, où le personnel a été, n'est-ce pas, molesté. De sorte que sur les 4679 bureaux, 4577 ont fonctionné, soit 98% de bureaux de vote. Kasaï oriental, sur 5130 bureaux, 4972 ont fonctionné, soit 96%. Il s'agit essentiellement des territoires de Lomela. Moi-même, je me rends demain à Lomela pour aller organiser les élections. Le territoire de Lomela, c'est l'un des territoires les plus enclavés à la République démocratique du Congo. Pour y aller sans hélicoptère, sans autre moyen, on n'y arrive pas. Mais le problème qui s'est posé à Lomela, c'est que les deux groupes sociaux, je dirais ethniques, qui vivent, ne sont pas tombés d'accord sur les déploiements des bureaux de vote et la composition des CSR. On va essayer de trouver la solution demain.
Professeur, oui. Permettez à ce niveau, c'est que plusieurs incidents et irrégularités ont été signalés. C'est notamment, par exemple, des bulletins de vote cochés en faveur de certains candidats retrouvés dans des mains de tierces personnes. Comment la CENI explique-t-elle cette situation?
Non, je crois que là, je dois dire, il est vrai que la fraude existe dans toute élection. Mais la situation particulière de ces bulletins, c'est dû à un mauvais déploiement, un déploiement tardif. C'est-à-dire, lorsqu'on a déployé le matériel, et lorsque sur le terrain, on a constaté qu'il s'est posé un problème de bulletin, la CENI a essayé d'envoyer des bulletins. À Lubumbashi, deux camions contenant des bulletins ont été attaqués par des groupes armés. Donc, la CENI n'a pas la capacité de lucidité, n'est-ce pas, l'origine. À Kinshasa, les bulletins de vote qui devaient, n'est-ce pas, aller ravitailler un certain nombre d'écoles, des centres, ont été attaqués et ces bulletins ont été disséminés. Après, les bulletins sont retrouvés dans le vote des individus et c'est alors, n'est-ce pas, qu'on a commencé et s'est créé cette réunion autour de bulletins trouvés dans telle ou telle main et côté. Et lorsque chaque fois on demandait aux individus, au professeur de ces bulletins de savoir nous montrer exactement là où on avait coché, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore les éléments concrets. Donc, tout est parti d'abord du mauvais dispositif de bulletin.
Donc, c'est la responsabilité de la CENI en fait.
Absolument, de la CENI qui est engagée, parce que le bulletin, c'est un document sensible qu'il faut déployer avant que les électeurs arrivent. Le bulletin doit se trouver dans le bureau de vote. Or, quelle était la politique de la CENI sur cette matière? Compte tenu de la contrainte logistique, nous avons commencé par déployer des territoires les plus éloignés et on a accordé, en termes de priorité, la fin aux villes, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Mbujimayi. Parce que là, il ne se posait pas beaucoup de problèmes. Or, à Kinshasa, le jour prévu pour le déploiement du matériel, c'était le samedi. Or, ce samedi-là, dans toute la ville, il y avait des problèmes. Et on a donc commencé le déploiement les dimanches, assez tard, et à 6 heures, on n'avait pas encore terminé le déploiement. Et lorsque le déploiement s'est fait au vu des électeurs, et sur le pont d'un environnement qui était déjà fortement crispé avec les événements de samedi, eh bien, tout est parti de là. Mais, encore une fois, je vous dis, sur les 63 865 bureaux, on a eu simplement 485 bureaux, soit un taux de 0,76% de problèmes. Alors, à ce qui concerne Kinshasa, nous avons eu 99%, 0,6 bureaux qui ont bien fonctionné sur 10 295. Il y a eu des problèmes sur 39 bureaux de vote. Donc, c'est vrai, comme on a dit le matin, le professeur Komi, les trains qui arrivent en retard, ce sont les trains qui intéressent plus. Et dans un processus aussi sensible que les élections, ce n'est pas les taux de 98%, 99% qui puissent satisfaire les uns et les autres.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Elika, 99% des bureaux ont fonctionné normalement. Comment vous analysez ce fait?
Avec 99%, on va dire, bon, ça va. Or, avec les élections, les choses sont beaucoup plus compliquées. Parce que, comme en 2006, en 2011, il y a eu une campagne très, comment dire, très prétendue, une montée en chaleur de la part de à peu près tous les candidats, et toute une série de rumeurs. Hein, la RDC est connue pour les rumeurs avant les élections, avant la constitution du gouvernement, et tout le monde pensait qu'il y aurait triché. Donc du coup, ça fait que le 0,4% des bureaux de vote où il y a eu des problèmes deviennent le problème des élections. Alors là où c'est sérieux, c'est que dans ces 0,4%, on voit l'intervention de policiers, on voit que les témoins des partis politiques
sont violents, sont échappés,
on voit qu'il y a eu des violences physiques sur les personnes, les dépouillements ne s'est pas toujours fait dans les conditions adéquates, donc il y a toute une série de difficultés que c'est bien que la CENI reconnaisse ces difficultés-là. Notre problème, c'est, et c'est un vrai problème, est-ce que ces 0,4% de bureaux où il y a eu des incidents, comment on gère ça? Est-ce que c'est de la fraude? Est-ce que c'est de nature à infléchir le résultat du vote dans telle ou telle direction? Et on sent qu'aujourd'hui, quand on circule à travers Kinshasa, l'opinion est impatiente par rapport justement à ces trains qui arrivent en retard. Même s'il n'y en a que 1 sur 100, c'est déjà un de trop. Hein, et je crois qu'il faut faire très vite pour calmer l'opinion en lui donnant des faits établis et des assurances pour que les responsabilités seront établies le plus rapidement possible et que les coupables seront jugés et punis s'il le faut de la manière la plus exemplaire.
Et professeur, vous l'avez dit, mais le fait que la CENI reconnaisse sa responsabilité, c'est quelque chose à saluer également.
Je pense que oui. Bon, vous savez que la CENI et la CEI de 2006 reçoivent des balles, des coups de toutes parts, aussi bien de la part des partis au pouvoir que de la part des partis d'opposition, et c'est bien que la CENI reconnaisse. Mais le reconnaissant, les gens vont dire « vous auriez dû prévoir que ça serait comme ça ». C'est vrai que, moi personnellement, j'ai l'impression que on s'y est pris un peu tard. Mais on peut se demander si on s'y était pris 2 ou 3 jours plus tôt, est-ce qu'on n'aurait pas eu des problèmes encore beaucoup plus graves, notamment le vol des urnes, le vol du matériel de vote, etc. C'est vraiment une situation inextricable et difficile et qui exige que nous ayons des ripostes adéquates. Je voudrais ajouter aussi qu'on parle beaucoup de la CENI, mais le problème qui est derrière la CENI, c'est que les structures de l'État ne sont pas opérationnelles. La CENI ne peut pas suppléer à l'État,
notamment la police,
c'est pas la CENI qui peut faire ça. La CENI n'est pas le gouvernement, ni l'administration de l'État. Elle doit faire un certain nombre de choses, elle ne peut le faire que, bien que si certaines garanties sont réunies. Mais il est vrai qu'on pouvait prévoir que ce genre de choses arriveraient.
Professeur Komi, tout d'abord, le train, c'est toujours le train qui arrive en retard qui intéresse. Est-ce que vous restez sur cette même lancée?
Oui, les trains qui arrivent en retard, le problème est de savoir si c'est fait intentionnellement. Parce que bon, le train peut tomber en panne, et ça, bon, on n'a pas la maîtrise, mais on peut faire en sorte que le train tombe en panne, et là, bon, ça devient intentionnel. Donc, à partir de ce moment-là, la question de savoir si ces irrégularités qui sont constatées dans les urnes sont des irrégularités qui proviennent des intentions manifestes des organisateurs qui s'est voulu vraiment. Auquel cas, je dirais que c'est grave et en même temps, c'est corrigeable. Et, parce que, bon, pour apprécier qui a fraude, bon, il faut se référer au contexte juridique qui régit l'ensemble du processus électoral. Mais en même temps, il y a quelque part une part d'ombre dans toute élection qui permet aux organisateurs et aux différents acteurs de se glisser pour introduire l'élément délictueux qui serait la fraude et qui peut même conduire au crime, puisqu'on parle de mort, etc. Donc, le train qui arrive en retard, la question de savoir si c'est fait intentionnellement, si c'est voulu, et dans ce cas, bon, c'est grave, mais en même temps, on peut corriger.
Alors, le professeur Jacques Zoli dit que 99% des euros ont fonctionné normalement. À comprendre, c'est que le taux d'incidence serait moindre et que les
ouais, le problème n'est pas 0,4%, mais c'est que 0,4%, c'est de savoir qui y a dans ce cas 0,4%, parce que ça peut représenter une masse considérable d'électeurs, les 0,4%, qui donc peut polluer le résultat final. Donc, ce n'est pas le chiffre en tant que tel, le pourcentage en lui-même, c'est ce qu'il y a dans ce pourcentage-là qui peut polluer et donc décrédibiliser complètement l'élection.
Alors, professeur, il y a également, le professeur Joly l'a reconnu, le déploiement tardif du matériel qui a donné lieu à des suspicions au niveau de la population. Est-ce que ça pouvait être géré autrement?
Oui. La question est toujours là, et ça on l'a toujours répété dès le premier jour en studio, c'est que bon, on se pose la question, pourquoi s'en tenir de façon, je dirais, intégriste à cette date butoir, le 28 novembre? Ça rappelle quelque chose dans l'histoire de la RDC, c'est une date symbolique, je ne sais pas. Parce que bon, on peut négocier, trouver un compromis, par rapport à cette date-là. Mais en même temps, on peut traiter les choses en amont déjà. C'est-à-dire que, bon, ça fait longtemps qu'on sait qu'on aura aux élections, et donc, dans ce cas-là, mettre en place déjà bien longtemps, 2 ans, 3 ans à l'avance, parce que la RDC, c'est un pays immense, il n'y a pas d'infrastructure, encore que, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'infrastructure ne justifie pas cette fraude de ces irrégularités-là? Est-ce que le fait de ne pas implanter d'infrastructures routières, etc., si ce n'est pas voulu, est-ce c'est un peu comme l'analphabétisme. Hein. On ne veut pas que les gens accèdent à l'instruction parce que ben, ça permet de les manipuler, etc. On n'y a pas de route, ça permet aussi de bureaux fictifs, etc. Et tout, parce qu'il n'y a pas de route, ce n'est pas de notre fait. Alors que c'est du fait du gouvernement de construire des routes. C'est ça.
Professeur Jacques Joly, je vais vous demander des réponses très courtes parce que j'aurai une série de questions. Est-ce que la CENI a été victime de l'impréparation du processus électoral de la part des politiques?
Non, je crois que la question essentielle, c'est celle soulevée par le professeur Zélikia sur les contextes globaux, les cadres. Quand on organise des élections dans un cadre étatique très fragile, ou, comme a dit le professeur Comi, parle de 2 à 3 ans, c'est ça la question essentielle. Depuis 2006, pour organiser les premières élections, personne n'a pu parler des élections dans ce pays. On a commencé à parler des élections en 2010. La loi portant CENI est mise en place en juillet 2010. Et à partir de juillet 2010, il y a un débat sur la composition de la CENI qui va jusqu'au mois de mars 2011. La CENI est mise en place au mois de mars 2011. Et en 2011, quel est le contexte politique? Nous venons de faire une révision constitutionnelle non consensuelle. Et à partir de ce moment-là, les politiques demandent à la CENI, voulez-vous nous organiser les élections avant le 6 décembre? Voilà la pétition de la date d'où elle vient. Si vous dépassez le 6 décembre, eh bien, pour nous,
c'est le chaos.
C'est le chaos, c'est la fin de la dignité. Laissez-moi parler de ce soir. Deuxièmement, on exige qu'on organise des élections couplées. Et tout ça, ça a un impact sur l'articulation logistique et la planification financière. Alors, sur quoi de cela, ce n'est pas à la CENI de dégénérer une culture politique de compromis et de confiance. Depuis 2016, que le pouvoir, que le président Kabila est là, il n'a jamais rencontré son opposition. Donc, vous organisez des élections dans un contexte totalement de politique de conflictualité intense, et vous devez manager dans ce contexte-là. Et vous n'avez pas la capacité politique. Il appartient aux acteurs politiques de générer cette culture et la CENI viendra alors organiser des élections. Oui. Et jusqu'à samedi, vous avez assisté à des scènes, quatre de guerre dans la ville. Comment peut-on organiser des élections dans un tel environnement?
Mais il n'y a pas de réponse
à la CENI des difficultés sur l'environnement politique. Toutes ces questions-là sont des questions essentielles qui sont occultées par le problème de déploiement de bulletins ou de retard. Ce sont les questions essentielles sur le fond et l'essence de la culture politique et du jeu politique congolais.
Merci, professeur. Donc, vous confirmez effectivement que la CENI a été victime de l'impréparation des politiques. Professeur, par rapport au dépouillement, par rapport à la journée d'aujourd'hui, après également votre monitoring, quels sont les éléments dont vous disposez?
Aujourd'hui, le dépouillement s'est fait dans un contexte moins tiraillé, et si au début on a eu des difficultés, par exemple hier vous avez entendu l'intervention de la police, c'est parce que vous avez dans une salle de dépouillement 400 témoins face à 5 agents, et la police parfois n'y est pas. Heureusement, avec la compréhension, les témoins ont pu comprendre qu'on ne pouvait pas garder plus de 6 témoins dans la salle et qu'ils devaient faire de rotation. Et aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, globalement, tous les bureaux ont terminé les dépouillements. Et dans l'ensemble du territoire, on est en train de s'organiser maintenant pour amener, les documents, le PV, qui sont déjà affichés vers les centres locaux de compilation des résultats. Là encore, il est important que les structures de l'État puissent accompagner la CENI. Lorsque les structures sont totalement partisanes, ou la police n'a pas le moyen de vous accompagner, parce qu'elle n'a pas le moyen, vous allez vous retrouver avec des agents de la CENI, seuls, avec des bulletins, ou avec des documents sensibles comme hier, et à ce moment-là, on les attrape, des agents qui deviennent ou sont qualifiés de fraudeurs, et on les traite comme tels.
Professeur, il y a une question évidemment qui intéresse beaucoup les auditeurs qui sont en train de nous suivre. Ceux qui n'ont jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas pu voter, qu'est-ce qui va leur arriver?
Je crois que hier, on a expliqué. Il y a des cas où la CENI n'a pas pu déployer, n'est-ce pas, le matériel. Où le matériel est arrivé trop tard. C'est le cas de Bougandaga, c'est le cas de Tembo, c'est le cas de Panzi, c'est le cas de Lomela. Là, la CENI se donne le devoir d'organiser les élections dans les 48 heures. Il y a des cas des bureaux qui devaient être à 17 heures et qu'on a demandé, n'est-ce pas, qu'ils puissent continuer à recevoir les électeurs jusqu'au dernier. Ce n'est pas parce qu'on est omis qu'on peut rentrer ce soir et devenir le matin. Non, la loi dit on vote dès lors qu'à 17 heures, on se trouve sur la ligne. Et à ce moment-là, on est considéré comme étant dans l'heure où on vote. Donc, on ne va pas ouvrir des bureaux de vote pour les gens qui n'ont pas voté. Non, on a terminé le vote.
Donc, en dehors des structures de l'homme là où vous allez demain, le vote, c'est fini pour aujourd'hui.
Et il y a des cas où, n'est-ce pas, on a ouvert le bureau, par exemple à Lubumbashi, à cause des attaques qu'il y a eu, des attaques armées contre le véhicule et le dysfonctionnement de la ville, on a commencé à voter à 18 heures. Il fallait compter 11 heures. On arrive. Et quelques retardataires de bureaux qui n'ont pas été ouverts ont notamment, dans certaines communes de Lubumbashi, voté aujourd'hui. Et toutes ces opérations, puisqu'il faut que l'élection du 28 n'aille pas jusqu'au-delà du 30, elles doivent terminer demain pour que nous puissions rejoindre le groupe où on a commencé la compilation. Mais il y a des bureaux qui ont été attaqués, où les agents de la CENI ont été molestés. Il s'agit ici des cas infractionnels qui demandent d'abord une enquête. Et ne pas vous attaquer un bureau, peut-être que vous avez raison, mais parce que vous avez une seule religieuse avec des bulletins qui voulait venir pour dire que non, la religieuse, c'est une fraudeuse, vous l'agressez, parce qu'on est un personnel qui demande, n'est-ce pas, une enquête pour que, éventuellement, les auteurs de ces crimes de droit commun puissent être punis. Et à ce moment-là, la CENI ne peut pas donner le crime, n'est-ce pas, à la violence en ouvrant des bureaux.
Professeur Élie Mbokolo, on vote par-ci, en même temps, il y a dépouillement par-là, on votera demain de l'autre côté. Ça ne fait pas un peu des ordres, un décalage qui pourrait influencer la structure?
Là, il y a un vrai problème parce que le professeur Comi et moi-même, nous avons sillonné la ville de Kinshasa et visité un certain nombre de bureaux où les résultats étaient effectivement affichés. Et j'imagine que les chefs de parti, les candidats, utilisent le SMS, Internet, je ne sais pas, pour faire le tour de tout le pays et connaître déjà, à l'heure actuelle, je regarde mon collègue le professeur Delis, connaître l'état aujourd'hui du vote. Et donc, du coup, le vote n'a plus le caractère de spontanéité, d'authenticité qu'il aurait eu si on s'était organisé beaucoup plus tôt. Moi, j'ai quelque chose à dire à propos du report. C'est vrai qu'il y idéalement, on aurait pu penser à reporter les élections de une ou deux semaines. Mais vous savez que dans notre culture politique congolaise, nous avons un véritable fétichisme des dates. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2005-2006, lorsqu'il a été décidé de reporter les élections d'une année, puisque au 30 juin 2005, nous n'étions pas prêts, on a été au bord de la guerre civile. Et donc, cette année-ci, si on l'avait fait au dernier moment, sans consensus, certains auraient jugé que le gouvernement n'avait plus la légitimité et on aurait pu aller jusqu'à des affrontements très très violents. Donc je pense que pour 2016, il faut que dès la clôture des urnes, on mette en place ou le comité actuel ou une autre commission qui commence déjà à tirer les leçons des élections qui viennent de passer pour passer la main à une autre commission et pour qu'en 2016, on soit quand même, qu'on capitalise les leçons des deux élections générales qui ont déjà eu lieu.
Professeur, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent et ça va presque un peu dans tous les sens. Henri Paul de Kamanga au Kasaï occidental, que ferait la CENI pour le bureau de vote dont le déploiement a été fait par la police et a emporté le bulletin, n'est-ce pas, à la fraude? Honorable Maurice Onendole Bolita de Kisangani en province orientale, j'aimerais vous dire que les élections présidentielles et législatives de 2011 constituent plus, entre guillemets, un vilain jeu de cache-cache que des élections libres, transparentes et démocratiques. Les raisons sont multiples. Je vais le savoir en province orientale, les élections de 2011 ont été organisées dans la précipitation, raison pour laquelle elles ne sont pas crédibles et apaisées. À Faradier, beaucoup d'électeurs ne se sont pas rendus aux urnes, craignant les rebelles de la LRA qui ont tué deux personnes la veille des élections. Bref, ce sont des élections bâclées. Professeur, le mot bâclé est-il trop fort?
Bâclé, c'est disons que la CENI, compte tenu des dates qui ont été rappelées, compte tenu aussi d'une question qui n'a pas été évoquée, la mise à disposition des ressources financières pour travailler, on a créé une structure, comme c'est souvent le cas dans notre pays, sans lui donner les moyens de travailler. Donc du coup, on a eu l'impression que c'était bâclé, qu'il y avait de l'improvisation, justement parce qu'on n'a pas fait le nécessaire. Et là, je pense que la responsabilité du politique est très clairement engagée, aussi bien ceux qui détiennent le pouvoir que ceux qui étaient en compétition pour occuper le pouvoir. Et donc, dans tout cela, il est clair que nous avons des problèmes. La question, c'est ce qu'on appelle irrégularité. Incidents, est-ce que ce sont des fraudes ou est-ce que ce sont seulement des incidents et des irrégularités? Et moi je rappelle qu'il faut que dans tous ces cas, il est nécessaire que dans tous ces cas, pour notre pédagogie collective, que les acteurs politiques et les citoyens dressent des dossiers en bonne et due forme pour porter plainte. Le Congo n'est pas le seul cas où, localement, dans une circonscription, on pourrait refaire des élections si il y a eu trop de manifestes intentionnels ou non intentionnels.
Professeur Komi, le professeur Jacques Joly a dit qu'il y avait des faits infractionnels où des membres de la CENI ont été attaqués, violentés, et qui devraient faire normalement l'objet d'enquêtes très suivies. On a un peu l'impression que la CENI est orpheline hein, du soutien des structures gouvernementales qui ne l'accompagnent pas suffisamment.
Je vous entendre, c'est aussi mon impression. Je dis pauvre CENI. Mais en même temps, je me demande si la CENI n'est pas le faux-né du pouvoir.
Le mort-né, vous voulez dire?
Hein?
Le mort-né.
Le mort-né, le faux-né. Le faux-né, comme comment là?
Dans les
cirques. Tout à fait. Et là, ben, la question, c'est est-ce que la CENI, au fond, le I n'est pas de trop? Parce que le mot indépendant, l'adjectif, on accorde ça à ces structures-là qui ne le sont absolument pas. Et en fait, elles ne sont là comme possession de la présidence qui est intéressée en premier lieu par les élections. Le ministère de l'Intérieur, qui dans un état normal, organiserait les élections. Donc la CENI va incarner quelque part le ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Défense aussi, puisque la police, la gendarmerie, l'armée, tous ces gens-là interviennent. Et donc la CENI, quelque part, va être une sorte de coagulation de ces pouvoirs-là qui ne veulent pas se mettre en avant. Et la CENI va prendre tous les coups, alors qu'elle n'a pas les moyens d'organiser techniquement ces élections-là. et qui sont un moment très très sensible dans la vie d'un pays. Et donc la CENI, bon, moi, quelque part, en même temps je les condamne, en même temps je leur dis chapeau, parce que bon, moi à leur place, je ne sais pas ce que je ferais, surtout que je n'ai pas la connaissance technique. Parce que organiser les élections, ce n'est pas une messe en paix. Ce n'est pas seulement prendre un bulletin de 0,0 grammes et le déposer dans une urne. C'est tout le contexte, tout ce qu'il y a en amont, toute l'organisation, etc. Est-ce qu'on est capable quand on n'a pas la connaissance technique de tout ça? Alors, bon, on va choisir des gens qui sont finalement des partisans. On va dire, ben, organisez-moi des élections à telle date, je vous donne la date du soir, vous vous débrouillez et sortez-moi, évidemment, moi, éventuellement, s'il faut que ce soit je sois le gagnant, le vainqueur, ben, allons-y, je vous donne le pouvoir, organisez-moi des élections.
Professeur, il y a deux auditeurs pour vous, Rachid et André de Kalemio-Katanga. Comment peut-on parler de la transparence des élections au moment où les détournements des bulletins de vote se fait toujours à l'intérêt de quelqu'un? Je pense que la CENI oublie sa mission. Junior Silingue de Kinshasa, les Congolais sont loin de vivre leur rêve de bonheur, car avec de pareilles élections, notre vie s'enfonce et c'est décevant. Professeur, vous dites que l'adjectif indépendant est de trop. Je sais que vous parlez également par rapport à votre expérience, à l'expérience africaine que vous avez des élections. Est-ce que ça pourrait changer un jour dans le contexte africain?
Oui. C'est qu'il y a des pays qui arrivent à organiser des élections acceptables quand même. Et pourquoi on ne prendrait pas exemple sur ces pays-là, voir comment déjà fonctionnent leurs commissions? Je prends par exemple le Ghana que je connais un peu, je peux prendre aussi le Mali, le Niger. Et comment la CENI dans ces pays-là fonctionne? Bon, ce que je peux dire, c'est que bon, la CENI n'est pas un organe partisan dans ces pays-là. La CENI est plutôt un organe technique. Et on va voir ça, la technicité de la CENI, à travers les membres qui composent la CENI de ces pays-là. Ce sont des gens qui ont un savoir-faire en matière électorale. Ce ne sont pas que des partisans, même si, quelque part, ils ont leur carte. Hein. Mais ce n'est pas ça qui est mis en avant. On met en avant leur connaissance, leur expérience, expertise en matière électorale. Et c'est en fonction de ça qu'on va les choisir pour composer la CENI. Et effectivement, dans certains pays, la CENI, ce n'est pas la veille des élections. La CENI, par exemple, au Ghana, est pérenne. Et c'est elle-même qui choisit ses membres. Ce n'est pas le gouvernement qui intervient et dit, bon, moi, j'ai choisi tel pour composer, etc. On peut suivre un exemple comme ça, ou à l'île Maurice, par exemple, la CENI fonctionne très, très bien dans ce pays.
Professeur Eli Kambokolo, c'est un problème de volonté politique aussi.
Oui, c'est un problème de volonté politique, mais je rappelle que la CENI, chez nous, n'est pas composé que des membres de la majorité présidentielle. Alors justement, il y a un dosage un peu compliqué entre la majorité qui est elle-même multiple et l'opposition qui est aussi multiple. Et on dit, donc le problème du « i » est important, on dit indépendant parce qu'il y a des gens venus de tous les bords. Mais s'ils n'ont pas les moyens de leur indépendance, notamment, je dirais, les moyens techniques, parce que l'État n'existe pas, les recensements, les cartes d'identité, etc., et les moyens financiers de leur indépendance, je crois savoir que l'argent a été mis à disposition de la CENI très très tard, et un argent insuffisant. Donc ça veut dire que cette indépendance risque d'être purement nominale. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, je dis chapeau à la CENI, en même temps je dis il y a des problèmes. Moi je dirais, je plains les gens de la CENI parce que on tire à boulet rouge sur eux, on reporte sur eux les responsabilités dont une partie revient à l'État et une autre à la classe politique, qui a créé le climat d'intolérance et de violence qui donne les résultats que nous voyons maintenant.
Professeur Jacques Joly, il y a Lévin Sampere de Kinshasa qui vous demande, qui propose que la CENI proclame les résultats au fur et à mesure qu'on avance avec le dépouillement. Cela atténuera la tension le jour d'annonce des résultats. Professeur, qu'est-ce que vous lui répondez?
Vous savez, cette question assez spécifique nous pousse à aborder la question globale. Ce n'est pas parce que dans d'autres pays du monde, on proclame les résultats de manière progressive que on peut croire que la loi congolaise le permet. La problématique de la CENI, doit être d'abord bien comprise. Lorsqu'on cherche l'indépendance de la CENI, l'indépendance découle d'abord du texte. D'où, comment sont composés les membres de la CENI? Les membres de la CENI ne sont pas les agents du gouvernement. Les membres de la CENI sont désignés par la classe politique à travers les deux familles politiques, la majorité qui désigne 4 personnes et l'opposition qui désigne 3. Et à partir de ce moment-là, vous constituez votre commission qui se donne la mission d'être indépendante. Mais l'indépendance a des exigences. Le problème de ces élections, c'est d'abord le caractère contraignant du calendrier. Et ce calendrier n'a pas été décidé par la CENI, ça a été décidé par les acteurs politiques. Et chaque acteur politique avait sa vision. Dès lors que vous dites que pour nous les 6, vous devenez illégitimes, et que d'autres disent, mais écoutez, nous ne pouvons pas aller au-delà du 6, la question le plus technique, la question des liens politiques, et dès que cette question est figée par la Constitution, qui dit que le mandat du pouvoir s'arrête au 5e anniversaire, c'est la Constitution qui fixe. Il ne s'agit pas d'un jeu de miroir ou d'un jeu d'orientation.
Professeur,
c'est cela d'abord la question.
Professeur, sur le même sujet, il y a déjà des résultats qui circulent dans la ville. Professeur, quelle est votre réaction?
Donc, les résultats sont affichés dans la ville. Mais les résultats provisoires ne peuvent être proclamés que par la CENI, et nous avons pris comme date le 6 décembre. Après, le résultat définitif sont publiés par la Cour constitutionnelle et actuellement la Cour suprême qui fait office. Donc, aujourd'hui, les témoins des partis politiques ont le droit d'avoir les résultats. Et c'est d'ailleurs un mécanisme, n'est-ce pas, de transparence et de garantie. C'est-à-dire que chaque témoin doit pouvoir avoir les PV des résultats de son bureau de vote, et un parti organisé peut déjà commencer à faire la compilation pour éventuellement contrôler les résultats qui seront donnés par la CENI.
Merci professeur, il nous reste moins de 9 minutes et il y a beaucoup de questions qui vous sont adressées, je vais essayer de les ramasser rapidement. Philippe de Kikwito-Bambondou le sait que la CENI minimise toutes les irrégularités de ces élections, prouve à suffisance qu'elle a perdu son vrai sens. Jean-Claude Moutanda du Bas-Congo, avant le jour du scrutin, la CENI avait rassuré qu'il y avait des bulletins de vote dans tous les bureaux de vote. Comment expliquer que le jour du scrutin, la CENI nous dit qu'il n'y a pas assez de bulletins de vote? Doit-on continuer à faire confiance à cette institution? Jean-Pierre de Kinshasa, Massina Sissoko, les gens n'ont pas voté. Que dit le professeur Jacques Joly? Trésor Kisumboulé, comment se fera le déploiement des matériels électoraux dans les contrées les plus reculées de la RDC où il n'y a pas de route praticable par véhicule? Quand on sait qu'il n'y a pas des véhicules attaqués qui continuent des véhicules attaqués qui contiennent des bulletins de vote, professeur, essayez de ramasser ça en une minute de temps.
Mais écoutez, la question de... On ne minimise pas les incidents. Je crois que le professeur a dit que le 0,1425 joue, n'est-ce pas, dans la perception, et il faut le gérer pour savoir comment on va pour la suite. Mais ce qui est important, c'est les résultats. Et aujourd'hui, ce qui vaut dans le bureau, c'est rendre compte que ce qu'ils ont voté, c'est ce qui est là et ce qui doit sortir à la fin.
Quelle que soit la manière.
Non. La manière, c'est ça fait partie d'ensemble du processus. Une élection n'est pas un événement, c'est un ensemble de mécanismes. Alors, nous avons dit le 28 juillet. Non. La loi dit qu'il faut déployer les bulletins de vote 2 jours avant le vote. Vous ne pouvez pas déployer les bulletins de vote avant 2 jours. Et c'est ce qui est arrivé à Kinshasa. On devait déployer les bulletins le samedi et dimanche. Or, le samedi, il y a eu des événements dans cette ville. Donc, nous avons pu déployer les dimanches et malheureusement, le lundi matin. Et ce qui fait que la circulation des bulletins a concordé avec le vote. Et ça a créé, n'est-ce pas, ce phénomène où on a vu des bulletins attaqués et circuler dans tous les sens. Et en ce qui concerne les véhicules, il a dit qu'il y a une question fondamentale de route. Mais est-ce qu'on peut imaginer de mauvaises routes pour qu'on organise des élections qu'on gagne? Non, la route n'a pas de couleur politique. Il faut des routes. La question du Congo aujourd'hui, c'est l'absence d'infrastructures. Nous avons dû avoir 44 avions et hélicoptères de la MONUSCO. Après, l'Angola est venu avec 10 hélicoptères, l'Afrique du Sud avec au moins 10 hélicoptères, la République du Congo sort avec 2 hélicoptères, mais les hélicoptères ne peuvent pas changer Il faut des routes. Lorsque les gens peuvent faire 100 km à pied avec des urnes sur la tête, avec des bulletins à la main, et qu'ils racontent des individus, très souvent sans police, qui leur posent la question, est-ce que vous êtes de la CENI? Non, vous n'êtes pas de la CENI, vous êtes des agents, et c'est tout cela. Donc la question fondamentale est là. Comment on organise les élections dans un pays qui n'a pas d'état civil, qui n'a jamais recensé depuis 50 ans, qui n'a pas de police dans tous les coins, dont l'administration est partisane? Mais ça, c'est la vraie question qui s'élève au cours de cette élection et qui, en fait, la mauvaise ou du processus de l'élection ne cache que des larves qui cachent la forêt de la réinvention et de la reconstitution de l'État congolais.
Professeur Komi, je vous ai vu demander la parole instantanément.
Oui, non, il y a quelque chose là sur lequel je voudrais réagir, qui est passé comme ça. Bon, non. Ce que je voudrais dire, c'est que bon, on aurait aimé quand même avoir le taux de participation déjà annoncé, qui bon voilà, et ça n'attacherait absolument pas le secret des urnes ou influencer des électeurs qui ont encore à voter. Et le taux d'abstention, je pense que bon, les membres de la CENI doivent l'avoir, mais je pense que ça serait intéressant, ne serait-ce que pour notre gouverne, bon, essayer d'annoncer voilà, la tendance à midi, par exemple, sur telle région, il y a telle tendance qui ont voté, et etc. Et tout. Je pense que ça participe aussi à la transparence des élections, et on va attendre le 26 décembre, et paf, et on va balancer des chiffres à la figure. Je pense que préparer progressivement aussi la population à accepter les résultats aussi participerait au travail de monitoring, comme on dit.
Donc, vous pensez, professeur, qu'il faudrait déjà que la CENI commence à annoncer les tendances au
plan ouais, non, ne serait-ce que la participation. Combien de sur le corps électoral, combien ont participé? Quel est le taux d'abstention? Ça, bon, je pense que ça n'a pas tellement d'incidence sur le vote.
Professeur Edith, un mot sur le vote.
Oui, sur le taux, je suis d'accord, parce que ça permettrait de comparer avec les élections de 2006 et de voir notamment comment les citoyens se comportent. Et ça permettrait aussi, par rapport à ces fameux incidents et irrégularités, de voir dans quelle mesure ça a pesé ou non sur le taux de participation. Mais les résultats, je suis sûr que dans les jours qui viennent, des feuilles vont commencer à circuler.
Et ça circule déjà.
Ça circule déjà, on vous dira que telle était la gagnée, mais c'est très souvent de l'intoxication. Et c'est très, très, très mauvais, parce qu'il y a une certaine naïveté dans la population congolaise qui font que dès qu'un chiffre est mis sur Internet ou circule sur un papier, les partisans du candidat vont penser qu'il est effectivement gagné.
Alors, la réalisation me signale qu'on nous ajoute 15 minutes, donc nous avons encore un peu de temps. Professeur Eli Kambokolo, intoxication, mais en même temps, il y a des témoins qui sont dans les partis et qui peuvent déjà envoyer certaines tendances.
Oui, je crois. Je vais dire que moi-même, j'ai téléphoné à des gens pour savoir comment ça se passe à tel endroit et à tel autre. Mais tout ça ne donne pas des résultats réels, parce que ça ne donne que des impressions. Et je sais, vous le savez sans doute aussi, que dès avant la publication des résultats du premier tour, il y a eu des feuilles, on ne sait pas imprimer par qui annonçaient toute une série de résultats pour un camp, pour un autre, et ça a créé des problèmes qui nous ont conduit quand même aux affrontements armés de l'entre-deux tours.
Professeur Komi, avant de redonner la parole au professeur Jacques Joly, des feuilles qui circulent déjà dans la ville annonçant certaines tendances, telle a gagné. Quel est le danger de cette pratique, professeur?
Oui, au-delà même du danger que ça représente, bon, c'est que bon, les acteurs politiques peuvent faire toujours référence à des voyants pour sortir d'un corps. Hein. La guérison électorale, on sait ce que ça représente comme ressource pour certaines églises, voire même les fonctionnaires diminués, etc. Bon, c'est que ça représente des dangers parce que, bon, quand le résultat officiel va tomber et qu'il va contredire ce que eux font circuler, bon, quelle serait leur réaction? Parce que, bon, déjà, ils ont intégré, mentalisé des résultats qui relèvent de la rumeur ou de l'anecdotique. Alors, comment vont-ils réagir quand les résultats réels vont tomber? encore que le résultat réel pour eux, c'est des résultats frauduleux déjà. Ils sont préparés dans cette optique-là. Alors, bon, on voit le danger de tout ça.
Et évidemment, ça va contre à l'encontre de la loi électorale, professeur. Cette loi, finalement, a plusieurs fois été violée, les gens sont restés impunis, non sanctionnés.
Oui, c'est ça. Vous savez, bon, moi, je travaille là sur certains pays. C'est que, bon, à la veille des élections, la tendance en Afrique, c'est de modifier le contexte juridique, le contexte légal, le contexte qui régit les élections. Et chaque fois, dans pratiquement tous les pays, surtout francophones, il y a cette tendance-là. On modifie la constitution, on va modifier le code électoral. Alors bon, les gens ne se retrouvent plus parce que bon, le cadre électoral, c'est ça le repère. Or, quand vous intervenez pour modifier, et très souvent en sa propre faveur, mais qu'est-ce que les gens vont passer? Ben, je sors mon coucou aussi. Moi, je n'ai que ça. Vous avez là le bic, le crayon, mais moi, j'ai mon coucou. Et bon, on y va. On va s'affronter là.
Professeur Evité, en revenant sur les faits infractionnels dont a parlé le professeur Joly, les faits graves qui pourraient entraîner des échauffourées dont parle le professeur Komi, la CENI a fait appel à la CPI. Est-ce que ça suffirait pour tempérer les ardeurs, s'il faut dire ainsi?
Il faut espérer que ça va tempérer, mais en même temps, on voit que les forces de l'ordre, la police en particulier, je ne veux pas beaucoup frapper pour elle parce qu'il y a des régions où elle travaille bien, où il n'y a pas de problème, parce que la police est là. Moi, je pense que la CENI d'aujourd'hui est tout à fait consciente de à la fois des reproches qui lui sont adressés, qu'ils soient justes ou injustes, et aussi de la nécessité de prendre des mesures contre ceux qui ont commis des infractions. Je pense qu'il faut que la justice soit sollicitée à sa juste valeur et réagisse de la manière la plus ferme, comme elle ne l'a pas fait en 2006. Il faut que on voit qu'on ne peut pas jouer avec les voix des électeurs, avec le devoir des citoyens, et sanctionner chaque fois qu'il le faut avec le maximum de sévérité. Mais dans ce cas, c'est pas la CENI qui va sanctionner. Ce sont les tribunaux qui vont être compétents et les prisons qui vont appliquer les peines éventuelles.
Professeur Jacques Joly, il y a Jean-François Ngando de Mbandaka à l'Équateur qui dit: avec les cas d'omission, de radiation et de localisation, le taux de participation va absolument être revu à la baisse par rapport aux 32 millions d'électeurs initialement enregistrés. C'est ici où la tricherie peut jouer son rôle. D'ailleurs, je ne sais par quel miracle la CENI pourrait maîtriser l'effectif réel du taux de participation. Professeur, peut-on déjà avoir une idée sur le taux de participation parce que les bureaux ont bien fonctionné à 99% d'après vous?
Donc, je crois que la question du taux de participation, c'est une question essentielle et dont la réponse viendra, je crois, à partir de demain, dès lors que maintenant nous sommes en train d'aller vers les centres locaux de compilation. Les bureaux de vote sont comme des sous-structures plus ou moins autonomes et qui doivent maintenant renvoyer le tout à la première structure technique qui est le centre local de compilation, et c'est le centre de compilation qu'on donnera le chiffre exact. Parce que pour le moment, il y a, comme vous avez vu le matin, il y a des bureaux qui ont reçu 32% d'électeurs, d'autres qui ont fait au-delà parce qu'il y a eu des zones qui sont venues, et tout cela doit être corrélé pour donner un chiffre exact à partir du moment où l'ensemble des bureaux, les centres locaux de population vont commencer à travailler à partir de demain. Mais ce qu'il faut se solliciter, c'est cet engagement massif de la population qui était déjà là depuis 5h30 et qui, malgré la pluie, est resté mobilisé et engagé pour, n'est-ce pas, exercer ses droits fondamentaux de voter. Mais je crois que dès que les CSR qui sont fonctionnels vont commencer, nous allons avoir une obligation sérieuse. Pour le moment, nous sommes, n'est-ce pas, dans les tendances et très souvent aussi dans le rumeur. Il faut faire très attention.
Alors, professeur, il y a Charles de Kinshasa qui dit: quelles sont les leçons tirées par la CENI après la dénonciation de plusieurs irrégularités? Quelles sont les leçons?
La première leçon, c'est d'abord la leçon de la planification et de la maîtrise du calendrier. Lorsque on veut organiser des élections, il faut commencer dès le départ à voir les fichiers. Pour avoir un bon fichier, il faut recenser la population congolaise. Ce n'est pas normal que plus de 30 ans après, on soit toujours dans les projections. Et cette question du recensement est liée à une autre question essentielle, la maîtrise de l'administration. Lorsque vous n'avez pas une carte d'identité et que vous devez enrôler tout le monde avec n'importe quel document plus existant, voire même avec les témoins, il est difficile, n'est-ce pas, de maîtriser. La troisième nécessité, c'est la maîtrise chronologique. On ne peut pas, pendant 4 ans, croire que le pouvoir est un pouvoir atemporel et se réveiller à la fin, n'est-ce pas, au mois de juillet 2010, pour commencer à penser à mettre pour la CENI, et vous arrivez jusqu'au 11, voire le 26 septembre, vous n'avez pas encore maîtrisé, au-delà du fichier électoral, les candidats. Comment peut-on expliquer que vous savez qu'il faut déposer les candidatures au plus tard pendant un mois, du 4 au 11 septembre, et que ce soit le 11 septembre que dans une culture peut-être de béatitude, vous venez tous 14 000 déposer vos candidatures, parfois dans les conditions. Donc il y a des éléments d'ordre technique, d'ordre chronologique, d'ordre culturel, et aussi de la vision que nous avons du pouvoir. Est-ce que ceux qui ont le pouvoir pensent que le pouvoir c'est quelque chose d'appropriative, de possessive, ou tout simplement un mandat qu'il faut, n'est-ce pas, mettre, et que ceux qui viennent accumuler au pouvoir veulent-ils considérer ce pouvoir-là comme quelque chose aussi qui doit, n'est-ce pas, considérer la vie ou la mort? Et c'est ça aussi la question de la démocratie. Alors, la CENI ne peut travailler qu'avec les démocrates. Si on n'a pas de démocrates, il est difficile d'asseoir ou un processus électoral.
Je vais vous provoquer, professeur. Là, c'était l'opposant Joly ou le vice-président qui parlait.
Mais vous voulez que je continue à être opposant ou bien je sois vice-président?
Voilà, je disais que je vous provoquais. Professeur Elie Kiambokolo, il nous reste 9 minutes pour terminer l'émission. On termine à 20h04. Le professeur Joly l'a dit également, il y a eu engouement, d'après les rapports que nous avons reçus dans le bureau où les choses se sont passées normalement. Finalement, le peuple congolais comprend-il l'importance de poser cet acte civique?
Alors là, je suis absolument certain que la réponse est positive. Le peuple congolais a montré depuis le référendum constitutionnel de 2005 et jusqu'à aux élections de 2006 et à ces élections-ci qu'il comprend très bien que c'est lui qui est le souverain premier. Et donc, à tous les coups, il se mobilise. Et donc, la question qui est souvent posée par certains en disant « il faut éduquer le peuple », je pense que le peuple n'a pas à être éduqué. On a vu comment l'afflux pour avoir les cartes d'électeurs a été tout à fait massif. Et je suis d'accord avec le professeur Joly qu'on a inscrit les gens dans des conditions absolument inacceptables. Heureusement, nous n'avons pas de preuves, parce que quelqu'un pouvait, avec des témoins différents, dans 3 quartiers différents de la même ville, se présenter avec des noms différents et avoir des cartes d'électeurs par nombre de 3, 4 ou 5. Le peuple congolais, je crois, comprend très bien de quoi il est question et que c'est à lui que revient tous les 5 ans de renouveler le mandat ou d'enlever le mandat pour le donner à d'autres. Et on sait que ces élections-ci sont une élection importante parce que c'est la première élection d'une transition, d'une alternance possible. Et donc c'était très bien de savoir si c'était bien organisé, est-ce que les gens étaient pour renouveler le mandat de ceux qui sont là ou pour organiser pacifiquement une transition vers une autre équipe. Et il ne faut pas que cet enjeu-là soit obscurci, dénaturé par ce qu'on continue d'appeler incident et irrégularité. Je crois que ces deux mots sont impropres. Il faudrait trouver le concept adéquat pour voir si on peut appeler fraude ou non. Parce que l'opinion pense qu'il s'agit là de fraude et non pas d'incident.
Alors, professeur, il y a des suspicions, il y a des feuilles qui circulent déjà dans la population, comme on le disait, proclamant tel et tel autre déjà vainqueur. Mais comment
que faut-il pour préparer la population à accepter les résultats?
Il faut leur dire qu'il n'y a pas de, fatalité, ce sont les chiffres qui sortent des urnes qui vont établir qui est le nouvel élu à la tête de l'État et qui sont les nouveaux élus dans les circonscriptions électorales. Donc, il faut appeler les hommes politiques à une certaine modestie aussi, hein, et à un minimum de lucidité, et à ne pas se proclamer, président, soit parce qu'on est au pouvoir, ou soit parce qu'on croit qu'on est aimé par le peuple. Ces sentiments sont très insuffisants. Ce sont les résultats des urnes. Et jusqu'au 6 décembre, personne ne sait, sauf ceux qui auront les résultats confinés, personne ne sait qui sera élu. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est tel ou tel autre. Les 11 candidats sont dans une situation d'égalité absolue. C'est à la sortie des chiffres qu'on saura qui a été effectivement élu.
Donc il faudrait s'abstenir absolument de tendre son oreille à tout ce qui va circuler.
Sauf que la famille va nous dire, et peut-être par savoir à Bukavu ou à Kananga, quelles ont été les tendances. Mais le Congo est tellement grand, tellement immense, et les circonscriptions tellement nombreuses, on est près de 65 000, que je crois que ce sera difficile, même pour les gens les plus honnêtes, d'arriver en dehors de la CENI, de compiler tous les chiffres et de donner les résultats par avance.
Professeur Komi, on a parlé des leçons que la CENI a pu tirer ces élections. Le professeur Joly en a énuméré certaines, la planification, l'administration, la maîtrise chronologique. Que faudrait-il de plus pour avoir des élections dans les meilleures conditions?
Oui, je pense qu'il faudra ajouter peut-être un autre élément, peut-être en termes négatifs. Hein. À partir du moment où on a des élites qui sont misodémocrates, c'est-à-dire qui détestent la démocratie, comment organiser dans ce contexte-là? Je rejoins ce que dit le professeur Joly tout à l'heure, à savoir que la CENI a travaillé avec des élites, une classe politique qui n'est pas du tout démocrate. Et c'est ce que j'ai traduit par là, une classe politique misodémocrate qui déteste la démocratie, comment travailler avec elle? Autrement dit, et là je pense que Elikia disait tout à l'heure, l'éducation de la masse, l'éducation civique de la masse, qu'on lit dans les rapports de mission, etc. Mais moi je dis, il faudra peut-être faire l'éducation politique des élites d'abord, pour qu'elles deviennent démocrates d'abord.
Merci professeur, je considère aussi cela comme votre conclusion, parce qu'on va terminer l'émission dans moins de 3 minutes. Professeur Jacques Joly, s'il arrivait que jusque demain, on n'ait pas voté dans certains endroits, que va-t-il se passer?
Donc, je crois que j'ai été clair là-dessus. On a voté hier, aujourd'hui il y a des endroits où on avait commencé à voter assez tard que Walumbashi et on a continué. Les localités ou les entités qui ont été difficiles à joindre, Bongandanga et Kolé, Lomela, Juvé Dama, donc dans 48 heures on aura tout terminé. Entre temps nous croyons avoir pouvoir tout avoir et je crois qu'on pourra avancer.
Et à Massina-Sipoko, on n'a pas voté.
À Massina-Sipoko, il commence demain à 6 heures et il s'arrête à 17 heures. Il est question qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Parce qu'à Massina-Sipoko, effectivement, nous avions 39 bureaux de vote. Et sur ce point-là, le déploiement des bulletins de vote de la présidentielle n'a pas pu se faire parce que nous avons perdu ce bulletin-là avec la pluie. Et après la péréquation de mes européens.
Alors, professeur, un mot à tous les auditeurs qui sont en train de vous suivre et qui aimeraient entendre un mot d'apaisement de la part de la CENI, en guise de conclusion.
Le processus est contraignant, il est difficile. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour leur donner des élections crédibles, élections transparentes, mais ce sont des valeurs, ce sont des objectifs pour atteindre. Nous essaierons de faire de notre mieux jusqu'à ce que nous poussons pour gagner les résultats, mais qu'on n'oublie pas quelque chose qui est important, c'est le Congo, et nous ne pouvons pas nous engager à ce stade où nous sommes dans des cycles de violence post-électorale. Le Congo est déjà trop faible, on ne peut pas aller au-delà.
Merci professeur, je rappelle que vous êtes le vice-président de la CENI. Professeur Elikia Mbokolo, un mot en guise de conclusion.
Oui, moi aussi je crois que nous avons fait l'expérience de trop longues années de guerre civile, et de lutte armée pour arriver au pouvoir. Il faut absolument qu'on s'en sorte parce que nous avons un peuple jeune qui a besoin d'un avenir calme pour construire le pays.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais s'est terminé. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer et à présenter cette émission. Kevin Kouté, Guy Maté, Samuel Kessak, sous la supervision de Félix Pelamondo, à la technique Dieudonné Nyangata et Patrick Kassongwa. Présentation et coordination à Alain Rung. Au revoir. Thank you.